Ensemble quelques pensées de la parole de Dieu pour fortifier nos cœurs et affermir notre foi, nous encourager aussi dans la prière. Je vous propose d'ouvrir avec moi ce soir le psaume 118. Il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y a rien de bien particulier dans ce que je vais dire ce soir, mais j'ai vraiment à cœur de vous exhorter, de vous encourager au travers d'une parole un peu bizarre quand même. Vous allez comprendre. Psaume 118, on ne va pas lire la totalité, mais peut-être une petite moitié sera déjà bien suffisant. Il y a tellement de choses dans les profondeurs de la parole de Dieu. Psaume 118, verset 1er, tout le monde y est. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël, donc que son peuple, ça nous concerne nous aussi, que son peuple dise, sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous les sacrificateurs que nous sommes, que les sacrificateurs que nous sommes disent que sa miséricorde durera toujours, que ceux qui craignent, c'est-à-dire qui ont un profond respect pour l'Éternel, disent « sa miséricorde durera toujours ». Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Sérieusement, vous avez lu ce qu'on vient de lire ? Vous avez. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Sérieusement, on va voir ça. C'est ça la parole un peu bizarre, je mets des guillemets, dont on va parler ce soir. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les grands, sous-entendu les grands de ce monde. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Il y a trois éléments dans les versets que nous venons de lire qui vont nous permettre de comprendre que le psalmiste, on ne sait pas quel est l'auteur de ce psaume, que le psalmiste qui a écrit ce psaume n'est pas resté trop longtemps en plein désert avec un soleil de plomb qui lui a tapé sur la tête pour qu'à un moment il dise « Oh, je suis réjoui parce que j'ai des ennemis ». Bien sûr, nous aussi, vous comme moi, ça vous arrive régulièrement. Vous venez me voir, je viens vous voir. Et puis, je dis « Tu sais, Fred, regarde, écoute cette semaine ». Tu te rends pas compte. Il m'est arrivé une tuile énorme qui m'est tombée dessus. Je suis trop content, tu peux pas t'imaginer. Bien sûr, on fait ça toutes les semaines. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alors, ennemis, ben forcément, hein, c'est mon désert, mon épreuve, mon adversité, les difficultés, les problèmes, enfin tous ces mots M-A-U-X et tous ces mots M-O-T-S que nous n'aimons pas, on ne va pas les reciter ici, mais il y a tellement de choses que l'on peut concevoir derrière le mot ennemi, avec la pression, l'opposition, les difficultés, enfin il y a tellement de choses qui pourraient rentrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire tout ce qui va s'opposer à ma vie spirituelle, à ma marche chrétienne, dans les circonstances, et qui va être furieusement parfois, furieusement compliqué. Il est bien évident que le psalmiste, nous non plus, excusez-moi d'employer un mot cru, il n'est pas maso, il n'est pas masochiste. Bien évidemment, nous n'aimons pas les problèmes. nous n'aimons pas les crises, les tensions, nous n'aimons pas l'oppression. Non, je n'aime pas, je ne suis pas fan de l'adversité, je ne suis pas fan des difficultés. Les déserts et les tempêtes, j'ai appris et j'apprends et je bénis Dieu, bien sûr. Les sombres vallées, ben non, je ne suis pas tellement candidat. Les géants, les Goliaths et tant d'autres qui se dressent sur notre route, les ennemis en tout genre. Comment s'en réjouir ? Il faut bien considérer que les épreuves, les circonstances de façon générale, contraires, les circonstances contraires, sont limitées. Elles sont temporelles, elles sont passagères. Mais le Seigneur, lui, dans sa nature, c'est ce dont il est question ici au-dessus de tout, le Seigneur dans sa nature, dans sa miséricorde, lui, sa nature est éternelle. Lui est tout-puissant. Lui est infini. Lui est sans limite. Et il y a trois aspects ici de la joie du psalmiste, malgré l'opposition, malgré les circonstances contraires. Trois aspects très simples. Il se réjouit de qui est Dieu, de la nature de Dieu. Il se réjouit de ce que Dieu a déjà fait en sa faveur. Et il se réjouit de ce que Dieu va faire. C'est comme ça qu'on peut être joyeux dans des circonstances contraires. Et on va regarder ça ensemble. Alors oui, bien sûr, pour déjà décrire un contexte que nous ne connaissons pas, mais on sent bien que de toute façon, il y a réellement difficulté. Nous n'en connaissons pas la forme, mais au final... Qu'importe, c'est pas ça l'important. Une fois de plus, le problème n'est pas le problème. Mais au verset 10, dans ce langage métaphorique, bien sûr c'est une métaphore. Le monde entier ne s'est pas ligué contre le psalmiste, c'est une métaphore. Toutes les nations m'environnaient. Oui, être environné, je pense que vous comme moi, par moments, nous ressentons, soit dans les circonstances, soit dans le domaine simplement parfois purement spirituel, nous pouvons ressentir de la pression, de l'oppression. On se sent comme dans un étau et des situations de vie sont particulièrement oppressantes et préoccupantes au plus haut point. Elle m'environnait, ça décrit un étau qui se resserre. Au verset 10, elle m'environnait. Au verset 11, elle m'environnait. Au verset 12, elle m'environnait. Non, le psalmiste n'est pas... dans une forme de déni, il n'est pas non plus, parce que la foi n'est pas du déni, il n'est pas en train de minimiser de circonstances en disant « oui, mais finalement, c'est peut-être pas si grave ». Non, non, il n'y a rien de tout ça. Il est lucide et objectif sur la pression, quelle que soit sa forme, sur la pression qui l'entoure, sur des circonstances qui réellement l'oppressent. Mais il confesse un Dieu dont la force... la nature, les ressources, les interventions, la capacité, la puissance, la compassion, la fidélité va être non pas limitée, mais nettement et infiniment au-dessus, nettement supérieure à ce qu'il doit traverser et qui vont être réellement illimités. Son cœur, tout de suite, ça commence ainsi et c'est répété plusieurs fois, sa miséricorde durera toujours. Que les sacrificateurs qui sont là disent et confessent « Ta miséricorde durera toujours. » Que le peuple dise « Seigneur, ta miséricorde durera toujours. » Peu importe là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas quel homme de Dieu a dit ça un jour. Il semblerait qu'un jour, quelqu'un, un pasteur, un homme de Dieu ait dit, tout le monde le sait, mais on ne sait pas qui l'a dit finalement. Ça fait partie de ces citations célèbres, mais on n'en connaît même plus l'auteur depuis le temps. Il semblerait que quelqu'un ait dit « La miséricorde, c'est une corde que Dieu, dans sa grâce, lance dans notre misère. » Et ce qui est extraordinaire, c'est quelle que soit la profondeur ou la forme de mes misères, la corde que Dieu veut lancer et amener descendre jusqu'à moi, elle ne sera jamais trop courte, elle sera toujours suffisamment longue. Le Seigneur, lui, il a vraiment le bras long et il veut vraiment agir. Non seulement il a le cœur, parce que la miséricorde me parle de la nature de Dieu, elle me parle de son cœur, mais il a aussi la capacité, il a la toute-puissance et c'est ce que le psalmiste est en train de confesser. Ici, si le Seigneur n'avait que le cœur, ni s'il n'avait que la miséricorde, quand vous avez des gens qui sont pleins de compassion pour vous et qui vous comprennent sincèrement, qui ont de la miséricorde et de l'écoute, de l'attention, de l'amour, de la bienveillance pour ce que vous traversez, c'est déjà très bien. Seulement, ils n'ont pas forcément la capacité. Puis parfois, à contrario, peut-être certains ont la capacité de subvenir, d'aider, mais comme ils n'ont pas le cœur, mais le Seigneur, lui, il a le cœur, et il a la capacité, la toute-puissance. Et c'est ce que le psalmiste ici confesse, il y a la nature de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ce qui va être le sujet de sa joie, c'est que ce Dieu-là, verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Ce Dieu-là, il est en train de dire, ce Dieu-là est pour moi, il est de mon côté. Ces épreuves, ces afflictions passagères sont certes désagréables, mais normales, et peut-être même devrions-nous dire nécessaires, parce qu'elles me révèlent évidemment chaque épreuve, chaque adversité, comme un étau, me presse un peu plus dans les bras de mon Seigneur. Elle me propulse toujours un peu plus à ses pieds. Elle m'oblige à aller chercher des ressources plus profondes, des ressources que je n'avais pas avant, une qualité de vie que je n'avais pas avant, une qualité de foi que je n'avais pas avant, à aller chercher des racines, à enraciner ma foi. Bien sûr, on dit « Seigneur, fortifie notre foi. Amen !» Mais j'ai la responsabilité, nous avons chacun pour notre part la responsabilité par la parole, parce que c'est l'esprit de foi et la parole qui font grandir la foi en nous et qui la fermise, qui l'enracine, qui la rende plus solide, plus stable, plus ferme, plus mature. On ne peut plus ensuite l'arracher. Et oui, le Seigneur veut me fortifier. Amen. Mais j'ai la responsabilité, moi aussi, de me fortifier, de faire ce qui est nécessaire. Et très souvent, l'épreuve nous oppresse, et parce qu'elle nous oppresse, elle nous oblige à descendre, à aller chercher un peu plus en profondeur pour aller puiser de nouvelles ressources, et elle nous fait grandir. Une autre image, bien aimée, l'épreuve nous permet aussi d'aller plus haut. L'épreuve nous rapproche les uns des autres, logiquement. Et elle nous rapproche de Dieu. C'est un des buts principaux de Dieu qu'il se fixe quand il permet des épreuves, encore une fois, quelle que soit leur forme. Et vous avez remarqué, je ne sais pas, que pour aller plus haut, il faut des marches, il faut des escaliers. Souvent, on a un petit peu, pardonnez-moi, on a un petit peu dans la tête, on a des petits ascenseurs évangéliques. Je m'explique. C'est-à-dire que je veux aller plus loin avec le Seigneur et je prie sincèrement, je dis « Seigneur, ah, je voudrais tellement avoir plus de foi. Ah Seigneur, j'aimerais tellement être passé plus de temps avec toi. Je voudrais être davantage un homme de prière. Seigneur, je voudrais être davantage rempli de ton esprit. Seigneur, je voudrais davantage connaître ta parole. » Et il y a beaucoup de choses que l'on peut demander à Dieu ainsi qui sont sincères et qui sont de bonnes prières. Mais on a ce petit ascenseur évangélique dans la tête en pensant que on appuie, on prie, hop, ça s'ouvre, on monte, hop, on appuie, pof, 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 et on se retrouve à un niveau supérieur. Mais ça ne marche pas, parce que nous n'avons pas, il n'existe pas d'ascenseur évangélique. Il n'y a pas l'ascenseur de la foi, ça n'existe pas. Par contre, l'escalier de la foi, marche après marche, difficulté après difficulté, ça effectivement, ça existe. Et parfois, nous ne discernons pas que dans les épreuves, il y a en réalité une réponse de Dieu à notre prière, quand nous lui avons dit « Seigneur, je veux vraiment mieux me consacrer, je veux mieux t'aimer, Seigneur, je veux mieux te connaître, je veux mieux te servir, je veux mieux être rempli de toi, Seigneur, je veux, je veux, je veux. » Oui, mais ça ne va pas se faire en… Ça ne marche pas comme ça. Donc, il doit y avoir une marche, et le Seigneur promet dans sa grâce que la marche qu'il met devant moi, elle est toujours mesurée. Le Seigneur ne mettra jamais une marche trop haute pour moi, parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Donc toujours une marche à la hauteur de ce que je peux encaisser, pardonnez-moi l'expression, et puis aussi une marche dont la longueur est pas trop haute et pas trop longue. Et dans la pédagogie de Dieu, difficulté, adversité, ennemi, peu importe, tout ça, ce sont des marches qui, je le dis ainsi, dans la pensée de Dieu, doivent être le marchepied de ma foi. Et c'est comme ça que ça me fait monter plus haut près de lui. Par contre, l'ennemi, lui, l'ennemi de notre âme, le diable, il voit la même marche, et alors que Dieu, lui, il voudrait absolument, c'est sa pédagogie, c'est son but, c'est son plan, que ça serve à m'élever et à monter avec lui, l'ennemi, lui, il voudrait que vous vous preniez le pied dedans et que vous tombiez. Parce qu'une marche, elle peut avoir que deux fonctions. Soit elle vous fait aller plus haut, soit vous vous prenez le pied dedans et vous tombez. Et le Seigneur et les psalmistes montrent maintes fois que c'est un moyen d'aller plus haut, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu, c'est un moyen de grandir. Et c'est pour ça, dans cette perspective, le psalmiste, évidemment, n'est pas resté trop longtemps au soleil. C'est pour ça que le psalmiste peut dire, parce qu'il sait comment son Seigneur, il sait comment son Dieu fonctionne. Et il sait où Dieu veut en venir avec cette difficulté qui visiblement doit être sérieuse parce qu'il est environné, parce qu'il est oppressé, parce que sous certains aspects il n'en peut plus. Il aurait toutes les raisons humainement parlant de tout envoyer balader. Mais il sait comment fonctionne son Seigneur et il sait où il veut en venir. C'est pour ça qu'il dit, à cause de ta miséricorde, à cause de qui tu es, je me réjouis, même à la vue de mes ennemis. Je suis d'accord que pour confesser des choses comme ça, sincèrement, pas des mots pour faire joli, le vivre et le penser sincèrement, il faut déjà avoir gravi quelques marches avec le Seigneur. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut déjà en avoir monté quelques-unes. Hein. Et ensuite, on comprend. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires. Puis après, au bout d'un moment... Ok Seigneur, merci pour ce que tu mets devant moi, parce que tu vas me faire grandir. Ça va? Vous ne regrettez pas d'être venu? Non, ça va? Et là, frères et sœurs, cette vision juste, cette vision équilibrée de l'épreuve et du Dieu qui est souverain sur toute épreuve ne vient que par la méditation de la parole. La foi ne peut venir que de la parole. La foi ne s'enracine que dans la parole. Et c'est à nous, c'est à moi, c'est à vous, chacun pour sa part. Je ne peux pas le faire pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi, d'être profond, réellement d'être profond avec la parole, et pas seulement de la lire, mais vraiment d'avoir cette profondeur, cette méditation. Et comme je vous l'avais dit une fois, je me souviens, le but de la parole de Dieu, c'est pas seulement de me révéler qui est Dieu, même si c'est, évidemment, je le dis à chaque fois, c'est déjà tellement merveilleux que Dieu se révèle par sa parole. C'est pas seulement de me faire connaître qui est Dieu. C'est pas seulement non plus que j'apprenne à me connaître moi-même, parce que la parole, dit Jacques, est un miroir. Mais c'est aussi de m'amener à penser comme Dieu pense. Il veut m'amener à raisonner comme lui les raisonne, et il veut m'amener à voir les situations, les gens, les ennemis, comme le psalmiste ici et tant d'autres le voient en réalité, et il arrive ensuite à parler comme Dieu parle. Simplement, rapidement, ces trois sujets de joie qui sont dans ces versets que nous avons lus. En quoi consiste cette joie? Je vous l'ai dit, le premier aspect, malgré les ennemis, c'est la joie, parce qu'elle est indépendante, la joie de Dieu, la joie de l'Esprit en nous est indépendante des circonstances. Je peux, même si dans des circonstances pénibles, même si je verse des larmes, parce que c'est biblique, parce que dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, lorsque nous la traversons, si elle s'appelle vallée des larmes, ce n'est pas pour rien. Mais je peux avoir dans mon cœur cette joie et cette assurance de ce que Dieu est. Et c'est la première des trois joies que le psalmiste manifeste ici. La joie de ce que Dieu est. Ça reste toujours ce que Dieu est, le fondement, la priorité de mes pensées. sa nature, elle est omniprésente dans ce psaume et dans la parole. Verset premier, sa miséricorde durera toujours. Mais comme pas pour vous, mais pour moi, j'ai souvent du mal à la comprendre du premier coup. Au cas où j'aurais pas compris, verset 2, on me le redit. Sa miséricorde durera toujours. Mais comme au bout de deux fois, j'ai quand même encore du mal à focaliser mon attention sur la nature de Dieu, verset 3, il va me le redire. Stéphane, tu as deux fois, tu n'as toujours pas compris. Il faut que tu comprennes. Sa miséricorde dure à toujours. Mais comme au cas où, il sait que certains sont assez têtus, verset 4, sa miséricorde dure à toujours. Ce ne sont pas des veines redites, ce n'est pas de la méthode couée, ce n'est pas du conditionnement évangélique. Ce sont réellement des confessions de la nature de Dieu et il incite le peuple, verset 2, il incite les sacrificateurs, il invite tous ceux qui ont un profond respect pour l'Éternel à confesser, qu'ils le disent, confesse-le mon frère, ma sœur. Sa miséricorde dure à toujours. La détresse est passagère, mais la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et ça, c'est sa joie, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 7. Tout est fondé sur la nature de Dieu, sur ce qu'il est, verset 7. L'Éternel est mon secours. Verset 14, l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Et on a réellement un focus qui est mis sur la nature de Dieu, sur ce qu'il est. Parce que ce qui rassasie mon âme, ce qui me comble par-dessus tout, ce qui me donne de la joie, ce qui me rend paisible, ce qui me fait grandir, ce qui est mon partage, ce n'est pas ce que Dieu fait. Quand bien même il peut tout, quand bien même il a déjà agi, et dans sa grâce, on va le voir en troisième point, il agira encore parce qu'il est fidèle, il est fidèle, il agira encore. Mais en réalité, ce qui me nourrit, ce qui me comble, ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait ne peut pas rentrer dans mon cœur. Ce que Dieu fait ne peut pas me faire grandir. Ce qui rentre en moi, ce qui me comble, Fred l'a dit, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Et ça, ça me rassure, ça me fait grandir, quand je dis ça, vous avez compris, hein, je ne veux pas galvauder le Seigneur, il, l'Esprit Saint, la personne bénie et glorieuse de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, cette personne glorieuse et bénie, elle vit en moi, je suis son temple, et c'est cette parole et la présence du Saint-Esprit, la nature de Dieu qui me nourrit, qui me comble, qui me rassasie, et qui est un sujet de joie, indépendant des circonstances. Deuxième sujet de joie, là, après avoir contemplé ce que Dieu est, il va considérer ce que Dieu a déjà fait. Vous l'avez lu comme moi, j'invente rien, tout est dans le texte. La joie de ce que Dieu a déjà fait. Verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais l'Éternel a fait ce qu'il a pu. Avec ce qu'il avait. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Donc non seulement le Seigneur a agi quand j'étais dans la détresse, mais bien plus que ça, sa grâce surabondante a fait qu'il a agi au-delà de ce que je pensais ou imaginais. Vous savez, frères et sœurs, il y a logiquement dans la vie de prière une part vraiment essentielle pour le souvenir des interventions passées. Régulièrement, on l'avait vu avec la prière de Josaphat. Josaphat, même principe. Il recentre tout face à la coalition, les cinq rois ennemis qui se liguent contre lui. Josaphat, premièrement, recentre tout sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu. Et ensuite, il confesse ce que Dieu a déjà fait par le passé. Seigneur, n'est-ce pas toi ? C'est une façon rhétorique, mais il est en train de dire, Seigneur, c'est toi, n'est-ce pas toi qui avais chassé les habitants de ce pays pour pouvoir le donner, y installer ton peuple, et comme tu l'avais promis à Abraham, tu as été fidèle, tu nous as donné, etc. Ici, il y a la question du salut aussi au verset 14, c'est lui qui m'a sauvé, le Seigneur m'aurait sauvé pour ensuite me laisser. Non-sens, non-sens total. Et puis, il y a ici, il m'a exaucé, il m'a mis au large. Je crois que c'est extrêmement important, frères et sœurs. On le retrouve dans tellement de textes. Bien évidemment, hein, nous ne sommes pas nostalgiques. La nostalgie, c'est destructeur. La nostalgie, ça tue. Ah, c'était mieux avant. Il y a beaucoup de choses qui sont relatives. Hein. Mais de savoir se souvenir, de ne jamais oublier, parce que ce n'est pas parce que là, le psalmiste a un véritable souci, qu'il va se permettre d'oublier qui est Dieu et ce que Dieu a déjà fait pour lui et comment il avait agi avec largesse. Et c'est tellement bénissant pour nos cœurs, pour nos vies personnelles et puis les uns avec les autres, quand nous prions et quand nous parlons, mais aussi dans la prière, c'est très important de le faire. C'est pas de la nostalgie, c'est de savoir rendre à Dieu la gloire pour ce qu'il a fait par le passé et de ne pas tomber dans l'ingratitude ou dans l'oubli de ce qu'il a fait par le passé. La nostalgie, c'est interdit, ça tue. Mais le souvenir et l'action de grâce, ça c'est biblique. Et là, le psalmiste aussi, il a la joie de ce que Dieu a déjà fait. Alors il n'en dit pas plus, qu'a-t-il fait ? On ne connaît pas son problème, on ne sait pas exactement ce que le Seigneur avait fait dans d'autres circonstances, on ne connaît même pas le nom de l'auteur, mais il est clair, verset 5, « J'étais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large, autant de preuves que nous avions bien raison de croire dans la véracité de notre Dieu, dans sa nature, dans sa fiabilité, dans sa fidélité. Ce qu'il a fait était effectivement l'expression de son être. Les œuvres de Dieu sont le prolongement de sa nature, sont l'expression de sa nature parfaite. Et ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, qui sont certes réelles, les psalmistes, n'importe quel psalmiste, n'importe quel homme de Dieu, dans n'importe quel texte biblique, ne confond jamais la foi et le déni. Jamais il n'y a de déni sur les circonstances difficiles. Jamais on ne minimise les circonstances difficiles. Ce serait une folie. Si je minimise le problème, je minimise mon besoin de Dieu. Donc il faut toujours regarder un problème en face et il faut toujours l'appeler effectivement par son nom. Lorsque David, 1 Samuel 17, se retrouve confronté à Goliath, j'aime beaucoup cette parole de David qui dit à Saül, alors que Saül est en train réellement de douter que David va pouvoir faire quelque chose contre un tel géant, alors qu'il est si petit, si inexpérimenté, si jeune. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, de la gueule du lion et de la griffe de l'ours. L'Éternel qui m'avait délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et dans sa confession, David a réellement mis en évidence, il a braqué le projecteur sur ce que Dieu avait déjà fait. Dieu est le même ou je me trompe ? Dieu change-t-il ou je me trompe ? Il est vivant, il ne change pas, il n'y a en lui ni changement, dit Jacques, ni ombre de variation. Il a fait, il a déjà agi. Si tu es dans la foi depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, tu as nécessairement, si tu prends le temps de te poser et de réfléchir aux bienfaits de Dieu, des sujets de le bénir et de dire « Seigneur, et oui, c'est vrai, tu avais fait ça. Et oui, tu avais agi là. Et oui, tu avais su faire ça, Seigneur. » Et puis si tu commences dans la foi et puis que tu n'as pas forcément d'expérience, tu n'as pas encore de rétroviseur personnel pour regarder derrière, tu as un rétroviseur énorme qui te relate 1600 ans d'impossibilité résolue par le même Dieu, toujours fidèle, toujours compatissant, toujours tout-puissant. Et dans sa parole, le Seigneur te montre, il me montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est capable d'accomplir et le nombre de fois où il a agi, pas seulement à la hauteur de l'impossibilité, mais au-delà même de l'impossibilité. La joie de ce que Dieu est, la joie de ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est plus fort que le problème. Et puis, troisièmement, il y a aussi la joie de la victoire à venir. Le psalmiste le sait, mais nous le savons, nous, parce que ce n'est pas forcément première logique. Je ne sais pas comment il peut y avoir des victoires s'il n'y a pas de combat. Comment peut-il y avoir une victoire s'il n'y a pas de combat? Comment peut-il y avoir une croissance? Comment est-ce que je peux monter plus haut vers Dieu si je n'ai pas l'escalier de la foi devant moi? Comment est-ce qu'il peut y avoir une croissance s'il n'y a pas de crise? Vous savez, quand on est ado, vous en avez eu des ados, vous avez été ado. On parle de crise de croissance. Ça vient d'où ça? Crise de croissance. Ben oui, parce que la croissance, ça fait mal. Je suis devenu plus patient. Mais c'est dans des circonstances compliquées et vraiment pénibles que j'ai appris à être patient. C'est dans l'adversité que j'ai appris à me réjouir et à être confiant envers et contre tout. C'est dans l'adversité que j'ai appris. Il y a dans la difficulté, alors vous avez compris, hein, on n'est pas en train de glorifier la souffrance, la douleur, là, on ne se souhaite rien de mauvais, évidemment. Mais il n'y a pas de croissance sans crise et c'est dans la douleur. Parce que souvenez-vous, quand vous avez été adolescent, ces moments où ça tire. Vous avez des enfants, et au mois de juin, ils ont les manches qui sont là, et puis au mois de septembre, à la rentrée, ils ont les manches qui sont là. Vous dites, mais qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Et puis ils sont là, je suis fatigué, j'en ai marre, et tout. Ah, les ados, ils font leur crise. Faut les comprendre, ils sont en train de grandir, ils sont en train de changer. Tout se bouleverse dans leur corps, dans leur psychisme, dans leur psychologie, tout est compliqué en eux. Mais en réalité, on appelle ça des crises de croissance, parce que leur croissance, la nôtre, s'est faite dans la douleur. Et Dieu nous parle au travers de la création. Et oui, il ne peut pas y avoir de croissance sans crise, il ne peut pas y avoir de croissance sans douleur, sans adversité. Le psalmiste a compris que chaque combat, c'est l'occasion de remporter une nouvelle victoire, d'être plus fort, plus affermi. C'est l'occasion de retrouver la nature de Dieu, c'est l'occasion de se souvenir de ce qu'il a fait, mais c'est aussi l'occasion de voir la main de Dieu comme jamais. Comment je vais connaître le Dieu de l'impossible si j'ai jamais de situation impossible? Dans le possible, t'as pas besoin de Dieu. Le possible, tu le gères. Je suis grand, vous êtes grand. Le possible, on le gère. Il me faut ça pour rencontrer et voir le Dieu de l'impossible. Et il a une telle connaissance de son Dieu, c'est pour ça qu'il dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis » parce qu'il sait très bien que Dieu, ce que Dieu est capable de faire et que Dieu est fidèle pour le faire. Et c'est comme ça que, en lisant l'Écriture, on comprend que le désert est nécessaire. Vous voulez vivre le pays promis, vous voulez vivre le pays où coule le lait et le miel, vous voulez l'abondance spirituelle, vous voulez les fleuves d'eau vive qui coulent de votre sein jusqu'en vie éternelle, comme dit Jésus. Le chemin du pays promis, c'est le désert. Le chemin d'un sommet avec le Seigneur, c'est souvent une sombre vallée. Et le chemin d'une victoire, c'est un combat. Et Dieu, pourquoi Dieu permet ce combat? C'est parce qu'il veut absolument nous communiquer des victoires. Verset 10, au nom de l'Éternel, c'est une façon de dire qu'il est victorieux et qu'il a remporté une victoire totale, puisque ses circonstances, ses difficultés, ses ennemis, mais au sens circonstanciel, je les taille en pièces. C'est une façon de dire, j'ai remporté la victoire là-dessus. Le Seigneur m'a donné la victoire. Parce que bien évidemment, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, verset 10, verset 11, verset 12, vous n'allez pas... Si demain vous avez un collègue un petit peu, hein, si demain vous avez un collègue ou un voisin qui est un petit peu récalcitrant et qui est un petit peu compliqué, puis qui commence à vous persécuter ou être désagréable avec vous, vous lui dites pas demain au travail, au nom de l'Éternel, le pasteur l'a dit hier soir, au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Non, non. C'est une image, c'est une métaphore. On n'est pas agressif dans le verbal. C'est une façon de, je les ai taillés en pièces. Ça veut dire il n'en reste plus rien. Verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles, les pensées dans nos cœurs, ça va, ça vient, c'est compliqué. Mais elles s'éteignent comme un feu d'épine. Et le psalmiste est en train de dire ici en langage métaphorique, le Seigneur m'a sorti, il m'a délivré de mon épreuve, le feu d'épine s'éteint aussi vite qu'il a démarré. Et bien le Seigneur est en train de dire ici, la difficulté qui avait surgi tellement vite, Seigneur merci, il y a eu du combat, il y a eu ci, il y a eu ça, puis un jour par ta grâce, paf! La victoire, et ça s'est arrêté aussi vite que ça avait démarré. C'est ça que le Seigneur nous dit, bien sûr. C'est le Seigneur, au travers du psalmiste, quel courage, quelle hardiesse, quelle audace, et quelle assurance. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le psalmiste, il n'est pas sûr de lui. Il est sûr de son Dieu. Dans la prière, bien-aimé, je ne suis pas sûr de moi, je suis sûr de lui. Je suis sûr, et l'apôtre Paul dit, je sais, il dit pas, je sais ce que j'ai fait, je sais en quoi je crois, je sais ce que j'ai vu. Non, l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et le psalmiste ici, il est sûr de son Dieu. Il n'est pas sûr de lui-même. Il est sûr du Dieu qu'il est en train d'invoquer. Et le fait d'avoir bien reconsidéré sa nature, bien reconsidéré tout ce qu'il a déjà accompli, ça le remplit de foi et de courage, puisque Dieu est fidèle. Et c'est là que ça l'amène à se réjouir du fait que Dieu ne peut pas faire autrement que d'agir. D'une façon, d'une autre, un temps, un autre, à l'intérieur, tantôt à l'intérieur. Tantôt à l'extérieur, Seigneur, si tu n'agis pas à l'extérieur, je vais pas m'entêter. Si tu n'agis pas à l'extérieur, Seigneur, ça fait un moment que il se passe rien. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire là? Parce que Dieu agit toujours, mes bien-aimés. Soit dedans, soit dehors, mais Dieu agit parce que Dieu est un Dieu d'action. Et il ne faut pas limiter son action à un champ ou à un autre, mais à des moments où on dit, Seigneur, je sais que ça, c'est sous ton contrôle. Maintenant, dis-moi ce que tu veux faire en moi et ensuite ce que tu vas faire pour moi, qui sont deux choses totalement différentes, mais deux bénédictions totalement nécessaires. Et puis, on peut lire, si vous voulez bien, juste pour terminer, le verset 17. On s'était arrêté au verset 14, mais si vous considérez le verset 17, j'aime beaucoup cette déclaration, cette proclamation du psalmiste pleine d'assurance, verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ici, bien sûr, il n'est pas forcément, on est encore dans un style métaphorique, c'est pas forcément nécessaire. Il ne parle pas de mort au sens physique du terme, mais il parle au sens spirituel du terme, c'est-à-dire, non, cette situation n'aura pas raison de moi. J'ai un Dieu qui est, j'ai un Dieu qui a déjà fait maintes fois ses preuves, j'ai un Dieu qui sait ce qu'il a à faire pour demain, donc non, cette situation ne me tuera pas, je ne mourrai pas. Ici, on parle aussi forcément de vie intérieure. C'est une autre façon de confesser sa victoire. Je refuse que cette situation ait raison de moi. Je refuse de vivre dominé. Je refuse, tout en étant vivant dans ce corps, d'être mort à l'intérieur. C'est pas ce que Dieu veut. C'est hors de question. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai parce que le but de tout ça, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et il sait, il se réjouit de ce que Il sait, il se réjouit de ce que il va pouvoir raconter ce que Dieu a fait. Je raconterai les œuvres que Dieu a fait. Seigneur, merci parce que quand tu auras agi en moi, quand tu auras agi pour moi, ensuite je pourrai dire, tout ce que tu as fait aussi. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien, intérieur spirituel et extérieur circonstanciel. Amen. Il le fait pour notre bien, mais il le fait aussi pour sa plus grande gloire. Et Dieu ne laissera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est pour sa gloire. Le psalmiste est déjà en train de se projeter qu'il va glorifier Dieu, qu'il va raconter les œuvres que l'Éternel aura accomplies en sa faveur. Alors voilà comment, bien aimé, un homme de la même nature que nous peut dire « Je me réjouis, même à la vue de mes difficultés, à la vue de mes ennemis, parce que je connais mon Dieu, je sais ce qu'il a déjà fait et je sais ce qu'il est capable de faire demain. » Amen. On prie encore quelques instants ensemble. On peut le bénir, le glorifier, on peut centrer nos cœurs. Quelqu'un peut-être dans la prière peut aussi bénir Dieu pour des interventions passées, parce que nous ne voulons pas être oublieux et nous voulons le bénir et le célébrer. Que son nom soit glorifié. Seigneur, merci.